Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et du jour.
Bon bah c'est parti, on s'est pas présenté. Aujourd'hui je suis avec Hugo Tormento. Tu dis Tormento ou Tormento d'ailleurs ?
Je dis tout. Tormento. J'ai pas vraiment une façon de le dire en particulier. C'est vrai qu'en plus on me le fait remarquer d'ailleurs parce que il y a des fois où je dis Tormento puis il y a des fois où je dis Tormento. C'est même moi j'ai vraiment pas de je suis pas pointilleux là-dessus.
OK, bon ça sera Hugo.
Allez, Hugo ça ira très bien.
Grand spécialiste du swimrun et champion du monde cet hiver sur l'Otilo World Series, c'est ça c'est le nom ? Je me trompe pas ?
Alors, pour le coup, c'est sur Otilo World Championship, parce que c'était la partie championnat du monde, et Otilo, c'est le label international du swimrun. Et les World Series, du coup, c'est les Coupes du Monde. Et le World Championship, c'est l'événement mère. C'est la course mère, la course qui a vraiment créé le sport au final. C'est celle que j'ai pu gagner avec un peu de chance début septembre dernier.
Et que tu vas nous raconter un petit peu. Mais écoute, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce que le swimrun, c'est toujours un truc, comme beaucoup de gens, je pense, je suis tombé dedans en regardant ce super documentaire sur Intérieur Sport et en me disant, mais ces mecs sont complètement fous. Cette course a l'air complètement tarée. J'ai toujours eu envie d'essayer. Et je me suis jamais autorisé alors que j'ai fait quand même une bonne dizaine de triathlons. Je suis l'archétype du triathlète peureux qui a peur de se lancer sur ce genre de format. Donc je suis vraiment trop ravi d'être là et de pouvoir un peu parler de ce sport qui a le vent en poupe, qui est vraiment génial et de pouvoir décortiquer tout ça avec toi. Et en plus de pouvoir faire les cocoricos, parce que quand même un Français champion du monde, ça fait toujours plaisir.
Ouais, bah clairement, je suis vraiment content. J'ai même te faire une petite confidence que je t'ai encore jamais fait. Le premier podcast de sport que j'ai coupé, c'est le tien. Et je me suis dit, putain, ce serait cool quand même. Parce qu'en plus, à chaque fois, à la fin, tu dis, si jamais vous connaissez quelqu'un, il y a toujours cette question de si tu devais passer le micro, à qui tu le passes. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un, j'ai un pote à moi qui finisse par me le passer. J'adorerais y passer. Et aujourd'hui, j'y suis, donc c'est vachement cool.
Bah écoute, ouais, merci beaucoup d'écouter. Et c'est vrai que tu m'as écrit assez tôt. Et on avait pas mal communiqué un peu via les réseaux interposés. Et moi aussi, je te fais une confidence. J'ai une petite liste, tu vois, sur un fichier Excel avec, tu vois, les gens qui me contactent. Et je regarde un petit peu leur bio, je vois un peu ce qu'ils font. Et souvent, je vois des titres que c'est des athlètes de haut niveau. Du coup, je note les gens et je me dis, tiens, bah, au moment où ils ont vraiment un top résultat, je me permettrais d'aller les voir, tu vois. Ou j'attends un peu, tu vois, je suis un peu la progression. Bah, pour la petite preuve, il y a deux semaines, j'étais avec Pierre-Antoine Bayle, qui est paratriathlète. et du coup qui a été vice-champion du monde de paratriathlon le même week-end que Léo Bergère a été champion du monde sur les sports d'endurance. Ça cartonne, ouais. Donc lui, exactement pareil, je pense qu'il m'a contacté il y a 2-3 ans et je lui ai dit, bah ouais, on se fera un épisode un de ces quatre, puis j'ai un peu laissé traîner et puis voilà, ça se fait. Donc je suis hyper content. Bon, on a digressé, on a mis le contexte, mais je sais qu'on n'a pas un temps illimité aujourd'hui parce que tu bosses, on parlera un petit peu de ton organisation aussi. Mais comme tu le sais, j'ai une question habituelle que je pose sur le podcast qui est, quel est ton premier souvenir de sport ?
Mon premier souvenir de sport, c'est une compète de natation à Nouméa. On a des prises de temps tous les mercredis après-midi. La découverte de ce que c'était que le stress et de se faire pipi dessus avant de partir. J'étais tout petit. Et donc déjà gêné à ce moment-là, quand je venais d'arriver à Nouméa, donc c'était 7 ans. Tout gêné, tout dire, putain, pipi dessus aussi, qu'est-ce qui se passe ? Puis en plus, c'est dérangeant. Et je pose la question à un chronométreur qui était là. Il me dit, mais t'as pas l'air bien. J'ai une boule là. Ça me dérange, ça me fait pas du bien, et il me dit mais ça c'est le stress. Et il fait ah d'accord, mais c'est pas cool le stress. Et il fait mais si, c'est bien, c'est que tu vas bien faire, c'est que t'as envie, c'est que t'as... Et depuis ce jour-là, j'ai appréhendé le stress d'une manière ultra positive.
Ok, donc quoi, t'as eu tout dans l'histoire, quoi. T'as eu la petite anecdote pas très drôle et le conseil réconfortant de l'expérience. Ouais. C'est un mantra que t'as aujourd'hui. Si j'ai du stress, c'est que justement. Plus j'ai de stress, plus je vais réussir. Vous t'aimes le stress ? Enfin, comment tu le vis du coup le stress aujourd'hui ?
Je ne sais pas si c'est un mantra. En tout cas, quand il y a un moment donné où je monte en pression, je me dis oh, calm down, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est bien, t'y es, donc structure et vas-y, ça va le faire. C'est une des parties. Et l'autre partie, c'est que c'est rigolo, c'est qu'avant une course, j'attends ce moment-là. J'attends, il y a un moment, je cherche, je me dis, mais quand est-ce qu'il arrive le moment où je vais avoir la petite montée en pression là ? Parce que c'est presque réconfortant en fait de me dire c'est bon. Ça y est, c'est là, donc ça veut dire que je suis dedans et c'est que ça va le faire.
Et généralement, il arrive combien de temps avant la course ? 48 heures, 24 heures, 1 heure
La veille au soir. Hein. La veille au soir où généralement, j'en ai la veille au soir avant de m'endormir parce que je repense un peu à ce qui va se passer et je prépare un peu dans ma tête. Et après le matin, je tout boucle tout ça, ouais, c'est sûr.
Ok. Ça t'empêche de dormir des fois ?
Ça a pu m'empêcher de dormir un peu cette année professionnellement, étonnamment. Sportivement, oui, je tarde à m'endormir la veille de grosses échéances ou de sujets plus importants. Mais après, une fois que je suis endormi, je suis endormi. Hein.
Ouais, ça va. Enfin, ça me dit que de toute façon... Non, parce que j'ai été surpris, tu vois, de voir, il y a certains athlètes, tu vois, à très très haut niveau qui, la veille de course, sont quasiment une nuit blanche, tu vois. Pas sur les sports d'explosivité, tu vois, je pense pas que c'est le cas du Usain Bolt, je pense que Usain Bolt, il dort très bien au contraire, mais sur des sports plus d'endurance, c'est possible, quoi.
C'est très connu, c'est un fait, et moi, c'est rigolo, mais même mon coach me disait, mais la dernière nuit, c'est pas important, c'est la nuit d'avant qui est important, fais des batteries, et puis la dernière nuit, de toute façon, tu géreras, et je pense qu'en fait, pour le coup, c'est parce qu'il se projetait lui par rapport à son expérience, qui a été très athlète de haut niveau aussi, et je pense que lui il dormait pas du tout la dernière nuit. Mais c'est vrai qu'il y a plein de potes qui, je pense à un Arthur Serre qui est champion du monde de etc, qui lui pareil, il me dit toujours mais la dernière nuit on s'en fout, la nuit importante c'est la nuit d'avant, la dernière lui il s'inquiète pas trop parce qu'il je pense que c'est une manière aussi d'accepter que si jamais tu as des troubles du sommeil pour raison x ou y, stressé ou je ne sais, ça te libère un peu l'esprit et ça t'aide à accepter la situation.
Ouais, clairement je suis assez d'accord avec toi. Comme je te le disais, tu as mentionné Nouméa, je suis très curieux de savoir ce que ça t'a appris avec le recul, tu vois, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de culture sportive, en termes de voyage aussi. Qu'est-ce que t'en retiens, toi, comme souvenir et comme valeur que t'as pu appréhender aujourd'hui ?
Énormément de choses. Franchement, la toute première qui me vient en tête, c'est le smile. C'est le sourire, c'est prendre les choses positivement. C'est... La vie, est bon, la vie, c'est tout le temps, tout est positif, alors que des fois, tu te retrouves avec des gens qui vivent dans un squat, entre quatre tôles, mais... tranquille. Et ça c'est un mantra qui me... Enfin, c'est une façon d'être qui me plaît beaucoup. Et une approche qui est très, très plaisante et qui m'amène à évoluer au quotidien. Et c'est ce que j'aime. C'est cette approche-là que j'aime beaucoup. Ça, c'est la première partie. Et puis après, c'est tout ce que ça m'a amené aussi comme porte et comme chance. C'est quand t'es à Nouméa, c'est tout petit et que du coup, tu veux faire du sport un peu plus haut niveau. Bah, déjà, à 8 ans, je me suis retrouvé à partir faire les championnats de Nouvelle-Zélande, les championnats d'Australie parce qu'il fallait chercher la concurrence là-bas. Et donc, à 8 ans, balancé dans une famille d'accueil tout seul, tu veux jouer au ballon, bon, bah, t'apprends à parler anglais. Et donc, j'apprends à parler à anglais comme ça. Et c'est comme ça qu'au final, aujourd'hui, je suis quasi fluide en anglais. Après, j'ai un anglais de la rue et pas un anglais très, 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 très propre. Mais c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a apporté des voyages, ça m'a apporté des gestions de projets, mine de rien. Parce que du coup, à travers le sport et tous ces voyages-là, bah, tu construis aussi des cheminements et qui sont des mécanismes qui te servent beaucoup pour la vie derrière. Et même au-delà de ça, ce côté un peu isolé, un peu loin de tout, que derrière j'ai pu expérimenter de manière différente. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai quitté mes parents pour partir en centre de formation en France. Et avec un truc qui me motivait au matin, c'était de m'entraîner et d'avoir les bons résultats pour repartir au pays fier comme un coq. Donc ça, c'est aussi autre chose que le pays m'a apporté. Et puis forcément, c'est un esprit, c'est une culture là-bas, le sport. Ici à Paris, tu as du mal à rentrer dans un RER ou dans un métro à 10h du matin. Là-bas, tu as du mal à trouver ta place sur un trottoir à 5h du matin parce que tout le monde est en train de courir, marcher à tout âge. Et ça se passe le matin à 5h. À 6h30, tout le monde est au boulot. Pourquoi tout le monde est au boulot à 6h30? C'est parce que par contre, à 5h, 5h30, il n'y a plus personne au boulot. Et là, ils sont tous soit sur leur bateau, soit en train de faire du sport.
Il fait très nuit tôt aussi.
Il fait nuit tôt aussi. Mais tout le monde est dehors en train de faire du sport.
Ok. C'est des très bons nageurs, du coup, en Nouvelle-Calédonie, parce que bon, il y a Léo Bergère, toi, je me dis, ça doit pas être anodin quand même. J'ai un copain qui a grandi aussi en Nouvelle-Calédonie et qui nage tellement bien. Donc je me dis, est-ce que, vous nagez beaucoup à l'école ou...
Ben, on nage beaucoup. T'es forcément concerné par l'eau parce que t'es entouré d'eau et tous les week-ends t'es en mer. Donc tout le monde apprivoise l'eau assez facilement et a envie, en tout cas, de l'apprivoiser. Et en plus de ça, sur place, il y a des gros clubs de natation. Pour le coup, le pays est pas très grand et sur l'entièreté du pays, t'as 6 clubs de natation, ce qui est plutôt énorme parce que pour la population, c'est 200 000 personnes. Ça fait beaucoup, le club de natation. Il y a toute une structure, une ligue qui encadre vraiment bien la chose avec tout un accompagnement, même de la Fédé de natation, hein, qui a un CTR qui est déporté là-bas aussi, qui accompagne tout ça. Il y a un sujet aussi, c'est que le calendrier scolaire à Nouméa, c'est février-décembre. Le calendrier sportif, c'est le calendrier sportif français, enfin métropolitain. Et donc du coup, en fait, tu te retrouves à faire du sport décembre, janvier, février, pendant les vacances scolaires. Donc c'est comme si nous, en fait, tout l'été, on était encore en structure et en club. Donc c'est à des âges où tu peux t'entraîner à gogo pendant 3 mois sans avoir de problématiques de il y a l'école, il y a les devoirs et tout ça à gérer. Donc forcément, ça aide aussi à bien bosser au niveau du sport. Et c'est pour ça que je pense, dans pas mal de sports, les gens de Nouméa, sur les sports sur lesquels on est plus développé et plus pointilleux, on ne performe pas trop mal. Par rapport au reste de la métropole.
Écoute, j'étais pas du tout au courant de ce décalage de calendrier, mais effectivement, ça fait beaucoup de sens. Merci pour cet éclairage. Toi, du coup, ton sport maître, c'est la natation. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de nager? C'est quoi les sensations dont tu te souviens? Qu'est-ce qui te plaisait?
Ah, la pesanteur. T'es porté, tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est vachement, vachement chouette. Et puis après, la glisse. La glisse, cette sensation de glisse que tu peux avoir et de vitesse que tu crées dans l'eau. Quand tu arrives à reproduire des appuis qui sont presque des appuis terriens, mais dans l'eau, c'est dingue.
Ouais. Ce sentiment, il est rare, hein. Faut bien bosser pour l'avoir, quoi.
J'ai compté quelques carreaux dans ma vie, donc j'ai réussi à l'atteindre.
Justement, ça t'a jamais blasé, le fait de devoir compter les carreaux et que la natte soit un sport très répétitif?
Ça m'a... Alors, il y a des jours plus durs que d'autres, mais comme partout. À un moment donné, ça m'a blasé à la fin de carrière de natation, si on peut appeler ça comme ça, parce que... J'ai toujours mené les deux projets de fond, l'école et le sport. Et sur ma dernière année, je me retrouve à Mulhouse, donc qui était un club qui est réputé pour faire beaucoup de kilomètres, je confirme, et qui a aussi ses conditions météo, qui est mulhousienne. Et c'est la seule année où, en fait, je tente le tout pour le tout et je fais que la natation, je fais plus d'études. Donc là, je me trouve vraiment à faire énormément de sport. Enfin, énormément d'heures de comptage de carreaux. Et pour le coup, le résultat qu'elle n'est pas en face, ou du moins pas totalement, je fais le temps, mais je ne fais pas la place. Donc du coup, je n'ai pas les qualifs pour les Europes ou les mondes, je ne sais plus. De là où je me suis dit, bon, là, c'est bon. J'ai fait le tour de la question et stop. Là, c'est le seul moment où j'en ai eu marre.
Ok. Donc ça se termine un petit peu, pas dégoûté, mais un peu blasé quand même.
Déçu, forcément déçu, parce que y a cette déception de ne pas avoir cette qualif-là. Après, globalement, je marche beaucoup au feeling et à l'opportunité d'une certaine manière. Du coup, forcément, ça va avec ça. Et tant que ça me captive, tant que ça me prend, j'y vais et je vais tout y donner. Puis le moment où, ça, c'est bon, ça a bâché, c'est que j'ai fait le tour de la question et next. À ce moment-là, je n'avais pas autant de relativisme, mais maintenant, je le vis pas mal, en fait.
Ok. Et du coup, je crois que tu as une aventure un petit peu particulière sur comment est-ce que tu tombes dans le swimrun. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'histoire entre, justement, cet arrêt de la natation, justement, un peu, on va dire, à la porte d'entrée du très, très haut niveau, et l'arrivée dans le swimrun? Parce que je crois que c'est une histoire de famille, en plus.
C'est une histoire de famille, ouais. Ça met mon frangin dans l'histoire. Derrière, après ça, en fait, je...
Grosse machine aussi, ton frangin.
Il a fait beaucoup de sport et il a fait du polo, il a fait de la natation, il a fait du coup maintenant du swimrun, il faut aussi un peu de crossfit. Il est très passionné, il y passe beaucoup de temps. Et puis il performe aussi à un moindre niveau, mais quand même un bon niveau. Et du coup, lui pour le coup à ce moment-là avait commencé à se tourner vers le triathlon. Je me rappelle qu'il avait fait l'Alpha Ironman de Aix et j'étais venu le voir et je l'avais encouragé. Puis il m'a dit « Ah, il faudrait qu'on le fasse ». Bon, après, au début, on n'en avait pas trop parlé. Et moi, c'était à ce moment-là où j'en avais un peu marre du sport, donc je voulais faire autre chose et découvrir autre chose.
T'as quel âge à ce moment-là?
J'en avais 25.
Donc tu fais la pause des études que tout le monde fait un peu
Ouais, ah, clairement. Okay. Clairement, bah, que tu fais après carrière, hein, tu découvres un peu aussi la vie plus lambda et tu trouves de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. Là, il se passe ça et puis après, au Noël d'après, en discutant un peu plus fermement, il dit « Bon, t'en as pas marre de t'engraisser dans ton canapé, viens, on va faire un Ironman. » Et je dis « Ok, mais alors du coup, on fait ça, c'était à Noël, donc je dis « On fait ça en un an et demi, on fait l'année qui vient, on fait l'Alpe de Aix ensemble et puis l'année d'après, on se fait un Ironman. » Parce que bah, à ce moment-là... Je sais pas courir, je sais pas faire du vélo. Ça me paraissait quand même un peu long de m'embarquer là-dedans trop rapidement. Et donc on part là-dedans et en fait sur le chemin, il me dit tiens, il y a un truc là, ça s'appelle Otilo. Il y a une étape en Croatie, ça pourrait être cool, ça nous ferait un beau voyage déjà. Et puis en plus de ça, ça nous permettrait de faire une première épreuve de 5 heures. C'est que nager, courir. Courir, bon, au pire, ça va pas en marche. Nager, on devrait s'en sortir. On venait quand même de la natation, donc des efforts pour lui qui étaient sous la minute parce qu'il faisait du 100 mètres. Et moi, Maxi, quand je faisais du 15 minutes, ce petit changement. Donc il fallait qu'on appréhende ça. Et on est parti comme ça là-dessus. Et puis là-bas, on rencontre la communauté. On se fait embrigader dans l'histoire des championnats du monde, de la qualif.
Vous faites un bon résultat du coup?
On fait pas un très bon résultat, mais on fait pas un si mauvais résultat. J'ai plus le classement en tête, mais je crois qu'on fait un truc genre 17 ou 18.
Ouais, mais sans connaître la discipline.
Ah, mais en plus, le truc folklore, hein, parce que.
6 mois après votre retour, enfin ton retour au sport, quoi.
C'était un moment où. On connaissait rien du tout à la discipline, donc il y a quand même un matériel qu'il faut appréhender. C'était un moment où le sport était encore. Pas autant connu que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, même le matériel n'était pas développé de la même manière. C'était un moment où encore on expliquait qu'il fallait faire des trous dans tes chaussures pour évacuer l'eau, si tu veux.
Okay.
On te livrait des combinaisons qu'il fallait que tu coupes toi-même. Je veux dire qu'en tant que nageur, quand on me livre une combinaison toute neuve et qu'il fallait que je mette un coup de ciseau dedans parce qu'il fallait que j'enlève la manche, j'étais là, mais je comprends pas le projet là. Je comprends pas le projet. Donc, ouais, c'était tout un tas de choses qu'il fallait découvrir et adapter. Et c'était assez fun.
Bon, là, c'est en train de se professionnaliser, on va en parler un peu, mais il y avait ce petit côté un peu amateur, un peu guerrier, que je trouve hyper sexy, quoi, dans ce sport-là, quoi. Parce que rien n'est prévu pour, en fait. Tes chaussures sont pas prévues pour, ton pool boy est pas prévu pour, même les plaquettes, je pense que c'est des plaquettes, ouais, c'est des plaquettes classiques, donc.
Mais alors aujourd'hui, c'est encore des plaquettes classique. Maintenant, les pool boys, ils les ont changés. C'est des flotteurs, c'est des surfs presque. On a le droit à des choses immenses. En fait, il y a un moment où les meilleurs coureurs qui n'étaient pas forcément des bons nageurs se sont rendus compte de l'importance de la flottaison. Et donc là, ils ont pris des pool boys de piscine et ils ont commencé à les scotcher entre eux pour en faire des doubles, voire des triples pool boys. Donc là, au final, le label a fini par mettre des dimensions maximum. Mais ça reste des flotteurs énormes qui... Tu voles au-dessus de l'eau, quoi. Tu voles au-dessus de l'eau. Il a fallu trouver aussi une technique de comment l'emporter, parce que tu pars avec un matos et t'arrives avec un matos et donc t'as tout ça tout du long et il faut réussir à le transporter tout du long. Donc il y a eu cette technique-là qui s'est développée, quelle était la plus efficiente pour en chaque moment arriver à gérer avec tout ce matos et en même temps être rapide.
Bah, ça tombe bien que tu parles de matériel, la transition est toute trouvée. Je voulais justement t'en parler et te poser quelques questions là-dessus et aussi sur les règles qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'il y a des petites règles dans le tileux. Alors on a mentionné la combinaison qu'effectivement vous allez peut-être vous tailler pour avoir un short et avoir taillé les manches aussi pour qu'elles soient plus courtes et avoir moins chaud. On a mentionné effectivement le pool boy, les plaquettes pour nager. Il y a quoi d'autre comme matériel que tu dois prendre sur un swimrun ou sur un nautileux? Alors, l'Otilo, c'est particulier parce que du coup, vous le faites en équipe. C'est forcément à deux. Ouais.
Forcément à deux. L'Otilo, c'est forcément. Alors, c'est forcément deux. Oui et non, maintenant, ils ont ouvert sur les Coupes du Monde un format en solo.
Okay,
tu peux faire. Avant, historiquement, c'était que ce qu'ils appellent l'expérience et le sprint. Donc, l'expérience, c'est vraiment une toute petite course pour n'importe qui. Hein, même, ils acceptent les enfants sur celle-ci pour le coup. Après, sprint, ça va entre 13 et 18 pour les plus longues. Et après, il y a le format World Series, donc du coup, sur format marathon, où là, maintenant, c'est sur les Coupes du Monde ouvert en solo. Par contre, le championnat du monde reste en binôme et il n'y a qu'un seul parcours. Pour en revenir sur la question, sur la partie obligatoire, avant même de parler du matos, il y a une règle qui, est qui pour moi, je trouve la meilleure et la plus importante et qui ça serait bien que tous les sports l'appliquent, c'est que n'importe qui se fait gauler avec un produit qu'il a jeté par terre, éliminé. Il y a un engagement pour la nature qui est assez dingue et ça pour le coup les Suédois c'est pas les Allemands mais pas loin. Les règles ça déconne pas. T'es champion du monde ou tu l'es pas, ils te jettent. Donc si c'est fait par inadvertance et que vraiment on voit que c'est pas toi qui l'as contrôlé, il y a pas de souci. On va pas non plus être plus bête que bête, mais si volontairement tu fais tomber quelque chose et que tu jettes quelque chose dans la nature, t'es sorti. Donc ça c'est une des premières règles, une première obligation qui est vachement importante.
Tu fais bien de le dire et je trouve que c'est effectivement très chouette, tu vois, d'avoir cette approche et on sent cette culture suédoise et cette culture d'avoir un sport déjà dans la nature, donc respecte ton terrain quoi. Donc très cool. OK.
Clairement. Et après dans le reste du matos qui est obligatoire, t'es obligé d'avoir un sifflet. Ça c'est plus pour la partie aquatique parce que il faut pouvoir se signaler s'il y a un souci. T'es obligé d'avoir une bande, parce que en cas où tu fais une chute, on puisse faire un garrot, où tu puisses apporter les premiers secours minimum pour aider si jamais il y a un souci.
Ça montre quand même le niveau d'engagement, parce que je suis pas sûr que sur l'UTMB ou la Diagonale des Fous, on te demande d'amener un bandeau pour faire un garrot. Quoi.
T'es obligé d'avoir une couverture de survie, hein.
C'est pas une chute,
c'est pas pareil.
Sur le bord du chemin, tu vois. C'est pas, tu grimpes des rochers et tu te casses la gueule.
Dans la même idée, hein, c'est que bon, après l'UTMB, je le connais pas par cœur et je pense qu'il y a quand même des moments où t'es un peu seul dans la nature. Mais les Suédois, ils ont un rapport à la sécurité qui a rien à voir avec nous. Hein. Je me suis retrouvé à faire des traversées de 3 km entre deux îles. Pas un bateau sur l'eau. Hein. En plus, la veille, t'apprends que c'est une voie de passage des paquebots. Et là, tu dis, ouais, ok, il n'y a pas un bateau sécu pour ne serait-ce que me dire où est la flamme. Quoi. C'est vraiment. Parce que sur Terre, 3 km, tu le vois. Quand t'es dans l'eau et que t'as la houle, trouver une petite flamme qui est sur une plage de sable, une flamme orange, c'est pas toujours très simple. C'est pas toujours très simple.
Je veux bien te croire. Ouais. Mais c'est quoi, en fait, ils considèrent que si tu t'es inscrit, c'est que tu sais le faire. C'est justement, ça fait partie un peu de la difficulté de la course que, voilà, vous êtes lâché, vous vous débrouillez. C'est...
Déjà, il y a un truc, c'est que tu signes une décharge.
Ouais. Et si t'arrives un truc, c'est ta pomme.
Il t'arrive un truc, c'est ta pomme. C'est complètement ta pomme. Alors après, ça reste, comment dire? Ça reste un label, ça leur ferait pas une belle pub marketing, hein, donc ils font gaffe quand même. Mais tu signes de base. Première fois, ça nous a surpris d'ailleurs avec mon frère. Hein, c'est parce que c'est la seule fois où j'ai lu d'ailleurs ce petit bout de papier avant de le signer. C'est bien écrit, vous prenez le départ à vos risques et périls. Très, très rassurant. Très rassurant.
Mais je trouve que c'est bien, ça te met dans le bain, ça participe au mythe de la course. Ouais, tu te dis, là, je m'engage dans quelque chose. Quoi. C'est sans filet. Quoi.
Ah ouais, c'est clairement ça. Mais en plus, c'est une expérience de A à Z, ce truc, parce que quand tu te balades dans les transports, tu reconnais vite qui est swimrunner, qui l'est pas. Quand tu vas, parce que quand tu te rapproches d'un pays à une même date et que t'as un gars qui se balade avec un pool boy dans le accroché à son sac dans l'aéroport, tu sais qui c'est, donc ça crée un certain lien. Et la communauté est assez friendly, donc il y a pas trop de sujets pour s'aborder. Ça c'est le premier sujet. Et après autour des courses, les deux détenteurs du label et qu'ont promu le sport et qui l'ont créé comme il est aujourd'hui tiennent vraiment à garder un spirit et une atmosphère autour de tout ça. Et t'as tout un tas de rituels avec le briefing d'avant-course où tout le monde est dans une grosse salle, dans un gros amphi et ils t'embarquent avec une belle presse, avec tout un tas de choses. Oui, bon, ils te rappellent les règles de sécu aussi, mais ils t'embarquent vraiment et te motivent en disant ouais, vous allez vivre une expérience, vous faites partie d'une communauté. Enfin, il y a vraiment un truc qui t'embarque et tu te rends dans une atmosphère, tu dis ouais, ok, après ça, je serai pas le même homme. T'as d'autres choses, t'es à l'arrivée sur le parcours, t'as un des deux qui est là tout le long pour suivre plus l'arrière-course. Et à l'arrivée, t'as toujours le même qui est là et qui te fait un hug. Et c'est le hug d'arrivée du directeur de course. Enfin, je pense pas qu'Iron Man, le boss d'Iron Man, soit là à l'arrivée pour te faire un hug.
Il aurait beaucoup de déplacements à faire.
clairement pas. Clairement pas. Le briefing, on t'envoie un papier à lire et ça s'arrête là, tu vois. Donc, ouais, tu vis une expérience de A à Z. Et c'est ce qui, je pense, aujourd'hui attire et plaît
Ouais, exactement. Et t'as ce côté très famille, très proche. On est des zinzins, mais du coup, on est proches les uns des autres. Et ce côté-là est très, très charmant, je trouve. Mais du coup, attends, on a parlé matériel. Donc, il y a le bandeau, le sifflet, pull boy, plaquette. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous devez emmener?
Suivant la température de l'eau, la combi, ils l'obligent ou ils l'interdisent. Et après, dans les matériels obligatoires, t'as le bib, le chasuble de ton équipe que t'es obligé d'avoir et le bonnet. Mais sinon, c'est tout en obligatoire. Après, en facultatif, bah, tu ramènes tes gels, ta boisson, la corde, si tu veux te tirer dans l'eau ou sur terre. Parce que t'as aussi une notion dans les règles. C'est dans l'eau, il est interdit d'être espacé de plus de 10 mètres de son binôme. Et sur terre, c'est quelque chose comme 20 mètres ou 30 mètres.
D'accord. Ouais, donc c'est vraiment en équipe. Il y en a souvent un qui tire l'autre. Est-ce que c'est un choix stratégique, du coup, de se dire, OK, dans l'eau, il y a le meilleur nageur, on le met devant, il va un peu tirer l'autre?
Il y a un peu toutes les écoles. Pour le coup, moi, c'est souvent un choix stratégique parce que, bah, de par mon passé, forcément, j'ai une certaine aisance dans l'eau et je me fatigue moins, sans même parler forcément de vitesse, je me fatigue moins. Et donc, du coup, si je peux aider l'autre en le soulageant un peu, en le tirant, quand t'es derrière, t'as pas la corde, il faut toujours quand même un peu lever la tête, savoir où est-ce que tu vas, naviguer. Alors que là, t'as la corde, bah, c'est bête et méchant, mais t'as une corde, tu la regardes et tu la suis et tu te poses pas de questions. Et ça, en fait, c'est une préoccupation, c'est un stress en moins à gérer qui soulage la personne qui est derrière.
Ok. C'est hyper intéressant cette règle justement de devoir rester proche l'un de l'autre et de vous forcer à arriver et faire tourner en équipe. On reparlera un petit peu de l'équipe parce que je sais que ton partenaire du coup est suédois. Du coup, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous vous organisez. Mais si on termine juste avant sur cette partie un peu matos, moi je me suis dit un truc. Quand je cours déjà 2 heures sous la pluie et que j'ai les pieds trempés, à la fin mes pieds ne ressemblent plus à rien. J'ai les pieds en charpie, complètement moites, ils sont hyper gonflés et tout. Toi, du coup, sur le TILE, notamment les World Championships, c'est 10-11 km de nage et 70 de course à pied, grosso modo.
C'est 10 et 60.
10 et 60, ok. Et vous faites combien de fois l'aller-retour? Il y a 11 archipels, c'est ça?
Il y a 22 îles.
22 îles. Donc vous faites 22 fois rentrer dans l'eau, sortir de l'eau.
Ouais, sortir dans l'eau, ouais.
Ok, donc autant dire que moi, mes pieds, ils sont foutus. comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu gères justement l'humidité? C'est une course qui est au mois de septembre.
Ouais, tout à fait.
C'est la Suède, mais c'est au nord de la Suède.
Alors, c'est dans l'archipel de Stockholm. Il fait pas chaud et la météo peut très vite varier à ce moment-là. Hein. De toute façon, comme partout, dès que les températures ne sont pas très hautes, le soleil varie beaucoup, fait beaucoup changer la donne. Donc, comment tu gères la chose? C'est pour rester focus sur les pieds. Moi, je conseille des bonnes chaussettes en fait. Enfin, c'est là où tu te rends compte qu'il y a chaussettes et chaussettes et que c'est pas que du marketing. Pour le coup, j'étais assez dubitatif là-dessus, hein, honnêtement, et je me suis fait accompagner et encadrer par rapport à ça. Et là, déjà, ça te change la donne parce que t'as beaucoup moins de problèmes de frottement. Tous ceux qui font du trail pour le confirmer aussi. Et ça te gère par rapport à ça, au moins ce sujet-là qui pour moi reste le sujet le plus important parce que c'est dès que tu as des cloques et des ampoules, là ça commence à douiller. Et en plus avec l'eau, le sable ou les petites impuretés que tu peux choper dans les transitions, s'il y a un frottement, c'est pas chouette. Après, pour le coup, l'eau dans les chaussures, déjà les chaussures qu'on a sont toutes très light, très minimalistes, donc elles englobent pas énormément d'eau. Et puis de toute façon, t'es mouillé de la tête aux pieds, hein, t'as la combarde, t'as de tout, donc c'est pas comme courir que ou être qu'avec tes pieds mouillés et le reste tout sec. Donc déjà c'est pas la même approche par rapport à ça. Et après là-dessus, je sais pas si c'est prouvé ou pas, mais depuis tout petit je passe ma vie dans l'eau, ne serait-ce parce que j'étais nageur, donc j'ai passé à peu près 4 heures ou 5 heures dans l'eau tous les jours. Et puis quand j'étais pas dans l'eau pour l'entraînement, j'étais à la mer ou autre. Donc moi, je me suis adapté beaucoup à l'eau et le fait d'être mouillé, c'est pas un sujet.
Ok. Et sur l'eau salée, tu vois, avec les vêtements, les frottements, moi j'ai mes souvenirs, tu vois, de triathlon à mettre de la vaseline dans le cou pour éviter ce fameux frottement que tu as en fait à force de tourner la tête. Les nageurs en piscine ne connaissent pas ça. Là, je me dis, attends, t'es dans de l'eau salée, t'es trempé, t'es probablement, bah du coup, t'as ta combarde, mais t'as peut-être je sais pas, un maillot de bain en dessous ou d'autres vêtements, tu vois, est-ce qu'il peut y avoir d'autres risques de frottement ou d'inconfort? Et comment est-ce que tu peux le prévoir?
Alors déjà, pour le prévoir, bah, le truc le plus simple, hein, c'est la vaseline, hein, y a pas de surprise là-dessus.
Sur tout le corps, du coup, tu mets?
Pas tout le corps. Pour le coup, je suis assez minimaliste, donc sous ma combi, j'ai rien, j'ai pas de maillot de bain. En haut, par contre, j'ai ce qu'on appelle un kangourou top, parce que comme un kangourou, tu as des poches en fait. C'est un top qui te compresse, mais qui a des poches, et donc dans lequel tu peux mettre tout un tas d'éléments pour t'accompagner, ne serait-ce que ton.
Sous ta combi.
Sous ma combi, ouais. Sous ma combi qui est tout fin et qui, du coup, en fait, moi, me permet. J'ai toujours très chaud, toujours. Sauf quand il fait moins 15, bien évidemment, mais globalement, j'ai plus chaud que ce qu'il devrait. Donc, j'ai besoin, en plus de ça, de respirer et d'être ouvert. Donc, dès que je sors de l'eau, quand le temps le permet ou la distance à pied est suffisamment longue, j'enlève la combi. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir quand même un top qui me tient. Et d'avoir tous mes ustensiles dedans. Je peux ranger mes plaquettes pour pouvoir courir libre. Je peux enlever mon bonnet, mes lunettes pour le ranger. Il y a toute ma nourriture. Il y a de l'eau quand il y a plein d'eau et que je transporte de l'eau. Donc j'ai ça. Et après, par-dessus, t'as le bib, t'as le dossard, le chasuble. Donc du coup, moi, ce que je fais par rapport à ça, c'est de la vaseline, mais sur juste les points en fait où c'est important d'en avoir et pas forcément m'en badigeonner partout, parce qu'après c'est aussi désagréable. Enfin, j'apprécie pas particulièrement la vaseline pour le coup. Et donc il y a des petits tips que tu développes et tu t'en rends compte, et c'est en te posant des questions aussi, en expérimentant que tu le vois. Le plus important, forcément, c'est tout le tour de ce débardeur d'épaule, parce que ça frotte dans tous les sens, les aisselles. Le truc qui est connu, c'est partout dans tous les sports, c'est l'aine, parce que forcément, quand tu cours, ça, c'est les frottements qui sont pas forcément agréables sur le long terme. Et après, des tips que moi j'ai découvert un peu plus tardivement, c'est par exemple sur le bib. Tu sais qu'il y a c'est un bib qui a été fait très bêtement, hein, donc une face avant, une face arrière, et donc une couture qui fait le tour. Et en fait, à tous les points d'accroche de la couture, je mets un pâté de vaseline. Parce qu'en fait, ce point d'accroche, cette petite boursouflure, c'est celle qui va venir se frotter là quand tu vas faire ton tour de bras. C'est celle qui, quand tu vas courir, va venir taper ton biceps et finir par te faire une lacération ou une coupure sur ton biceps, comme un trailer pourrait le faire sur son sac de course, parce que c'est l'été et qu'il va courir en débardeur. Ils mettent beaucoup des choses sur les tétons généralement, mais tu peux le faire aussi sur le biceps si jamais ton biceps vient frotter sur le côté de ton sac.
Écoute, merci infiniment pour ce degré de précision. Moi, j'adore. En plus, je suis en train de faire mon petit cours de préparation, mon petit cours de coaching.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Avant de pouvoir me lancer sur le défi, pourquoi pas cette année, tu vois. Et c'était une des questions que je voulais te demander. En France, je sais qu'il y a beaucoup de nageurs qui écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui écoutent. Alors si vous avez un pote justement qui fait l'autre sport, est-ce que ça peut être intéressant de le faire ensemble? Est-ce qu'en France, ouais, il y a une course que tu recommandes qui peut être sympa justement pour démarrer? T'as expliqué qu'il y avait différents formats. Est-ce qu'il y a un event en France qui se démarque un peu des autres, si les gens veulent en voir ou même ou en faire?
Honnêtement, il y en a plein. Et du coup, j'aimerais pas en citer un, parce que ils ont tous leur petite particularité. Ça fait aussi un peu partie du sport, c'est-à-dire que tout organisateur cherche à avoir son petit truc qui va sortir du lot. Et ça, c'est ce qui fait qu'au final, il n'y a pas forcément une course qui est meilleure qu'une autre. Par contre, seul truc où je pourrais me positionner, c'est il y a un site qui s'appelle Swimrun France et qui, pour le coup, regroupe un calendrier. Et donc là, qu'importe où vous êtes, vous pouvez trouver une course de toute distance, que ça soit tout petit parce que vous voulez être votre enfant ou parce que vous voulez juste commencer par une petite distance, une moyenne ou une longue. Il y a tout niveau, et ça c'est ce qui est vachement cool dans ce sport, c'est qu'ils ont bien créé la chose pour accompagner les gens là-dessus. Si vous êtes intéressé ou vous posez des questions, allez sur Swimrun France, il y a le calendrier et ça vous permettra de trouver la course la plus proche de chez vous. Et puis, petite anecdote là-dessus, le sport est un sport suédois. Le pays qui a le plus de courses au monde, c'est la France. On avait fait l'expérience à un moment quand c'était un peu les problèmes de Covid et qu'on ne pouvait plus trop voyager. Si vraiment tu veux courir tous les week-ends, tu peux courir tous les week-ends. Il y en a de partout en France.
Ok. Bon, bah trop bien. Je repose la question différemment. Toi, on te verra sur quelle course en France cette année?
En France cette année, on me verra pour sûr à Cannes, à l'étape de Coupe du Monde. Ça, c'est plutôt fin octobre. Et après, j'ai différentes questions qui se posent. Le calendrier n'est pas totalement encore figé. Il y a une course qui est plutôt connue, qui est une des plus anciennes en France, qui est à côté de Perpignan, qui s'appelle Côte Vermeille. qui a un format très long, qui est intéressant et qui est dur et qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille tester. Tu as des courses au Vernon, tu as des courses à La Fraye, tu as des courses dans le centre. Non, pour l'instant, si je veux vraiment en dire deux où je pense que je serais, c'est Cannes et Côte-Vermeil.
Bon, bah écoute, cool. On voit que c'est en plein essor et merci pour le tips de ce site. Là, je mettrai le lien dans la description de l'épisode parce que je pense que ça en intéressera plus d'un. On fait une bise et on remercie la Fédération Française de Triathlon aussi qui pousse aussi, donc c'est plutôt chouette. Si je reviens sur le l'Otile, du coup, toi, tu les as fait toute l'année dernière. Tu as fait toutes les Coupes du Monde plus le Championnat du Monde. Vous avez gagné 5 Coupes du Monde. Alors, je ne sais pas si. Il me semble qu'il y avait 6 Coupes du Monde, je ne sais plus.
J'ai gagné dans l'ordre, j'ai gagné Uto. Derrière, on est en Suède. Derrière, on est parti en Angleterre faire Silly. Après, on est reparti en Suède faire Engadin. On est reparti en Suisse, Engadin. On est reparti en Suède faire Göteborg. Ça faisait 4 Coupes du Monde. Après, il y a les Championnats du Monde début septembre. Et derrière, on a refait 2 Coupes du Monde. C'était Cannes et Malte pour terminer la saison. Donc, 6 Coupes du Monde et un Championnat du Monde.
Vous gagnez 5, 6 ?
On gagne les 6 et championnat du monde. On fait le grand chelem.
C'est laquelle la plus dure ?
Laquelle a été la plus dure ou laquelle est la plus dure ? Parce que laquelle est la plus dure, la réponse est évidente, c'est le championnat du monde parce que c'est beaucoup plus long. Et donc, ne serait-ce que par ça, mathématiquement, c'est la plus dure. Laquelle a été la plus dure ? La première. La première parce que c'était très tôt dans la saison. Il faisait froid, il faisait 8 degrés dehors, 8 degrés dans l'eau, 5 degrés dehors. On est ressorti, on était gelé comme jamais. Au tout début, j'ai cru que j'allais bâcher parce que j'avais pas forcément bien géré. On met des bandeaux néoprène au niveau des tempes et du front pour bloquer cet effet un peu gelé que tu pourrais avoir comme quand tu croques dans une glace trop gelée. T'as fait mal au crâne, je perdais l'équilibre. Donc après, j'ai pu remettre le bandeau et ça a géré la chose. Max, à la fin, lui, en pouvait plus. Je le tirais, le pauvre, il était gelé, il tremblait. On passe à la ligne d'arrivée, on sabre même pas champagne, on dit à peine merci et on file au sauna. Et là, on reste 45 minutes avec la combinaison, les choses sur le bonnet avant d'arrêter de trembler dans un sauna. Ceux qui connaissent bien le sauna, déjà tout nu, c'est ça chauffe très vite. Bah alors avec une combinée au prenne et des chaussures et un bonnet.
Vous étiez KO, mais il y a dû avoir un record d'abandon hein, sur une course comme ça. Avec
ça n'a pas été très folklore, effectivement. Déjà, il y a eu un record de non-prise de départ parce que les gens... Nous, on voulait tenter la chose et de toute façon...
T'as chaud tout le temps, toi, donc...
ça ne le faisait pas que de ne pas prendre le départ pour cette raison-là, mais c'est sûr que le côté plus expérientiel de certains participants... Bon, bah là, c'est comme le matin du marathon. Pour ceux qui se sont dit, je vais le faire pour le fun, si le matin il pleut des cordes et qu'il fait 2 degrés.
Ouais, il n'y a plus grand monde. Ok. Je vois la difficulté. Et j'avais une autre question, c'est effectivement l'Otile, donc devenu célèbre avec ce reportage. Un des trucs qui m'a marqué, moi, dans les images, c'est à quel point c'est sauvage. Tu l'as mentionné, vous avez 3 km de natte, c'est une voie de paquebot, il y a zéro bateau pour vous sécuriser. Vous arrivez sur les côtes, c'est des rochers. C'est glissant comme pas possible, c'est hyper dangereux. Il y a un côté hyper engageant, hyper proche de la nature, hyper escarpé. Tu vois, sur le chemin, vous êtes en forêt, le balisage est à peine visible. Est-ce qu'elles sont toutes comme ça, aussi dures, dans cet engagement physique et dans cette proximité et dans ce risque qu'il y a avec la nature ? Ou est-ce qu'au contraire, il y en a quand même, là tu as mentionné ces Chvar en Croatie. Il me semble que c'est des plages. Est-ce que c'est peut-être un peu plus facile pour les transitions est-ce qu'elles ont, toutes cet engagement-là, tu vois, sur l'Otile en tout cas.
Pour moi, en tout cas sur l'Otile, elles ont toutes quelque chose. La première, tu prends Uto, déjà tu es sur le village d'arrivée des championnats du monde, donc il y a un côté un peu mythique. Et en plus de ça, pour le coup, toutes les transitions, tu sors et tu rentres dans des rochers qui sont très glissants et tu as une partie un peu trail. Tu vas à Silly, ça c'est un archipel au large de l'Angleterre qui est incroyable, t'as l'impression d'être dans les Caraïbes et t'as au tout début de la course un enchaînement d'une natation de 2 km, courir 600 mètres et à nouveau une natation de 1,5 km. Pour les nageurs ça va, pour donner un ordre d'idée, un Ironman c'est 3 km de natation et c'est une montagne, là les gars ils font ça dès le début et après ils s'en remettent 6 dans la de la course et il faut courir, donc il y a toujours un truc que tu viens à surmonter. Tu passes en Engadine en Suisse, il y a 1006 de dénive plus des lacs qui sont en altitude qui sont gelés. Göteborg, c'est tu sautes de roche en roche et c'est très très technique. Championnat du monde, n'en parlons pas. Même Cannes en fait au final où ils ont réussi à un côté un peu incroyable du début où tu pars des îles du Lorrain, derrière tu passes devant la Croisette, t'es sur le tapis rouge, après tu remontes sur la croix des Gardes, je crois qu'elle s'appelle, tu redescends, tu repasses la Croisette, et après tu montes le long d'un vieux funiculaire, t'es le long des rails dans une espèce de jungle, tu redescends dans la jungle, tu passes dans un caniveau, dans une grosse bouche de caniveau en rampant, tu suis le cours d'eau, t'es dans une espèce de jungle, enfin tu vis une expérience dans chacune des étapes de manière différente, mais dans chacune des étapes tu vis vraiment une expérience, et c'est ce qu'ils cherchent à faire, hein, tous.
J'ai forcément une question de triathlète, tu vois, sur les transitions. On sait à quel point, tu vois, notamment sur le format olympique, au très haut niveau, à quel point les transitions sont clés, parce que sur la moindre erreur qui va te coûter 5-10 secondes, tu peux perdre une course, parce que, notamment sur la T2, même plus sur la T1, tu vois, si tu loupes le pack de vélo, c'est fini. Pareil, s'il y a un mec qui te prend 20 mètres d'avance sur la course à pied, ben, en fait, psychologiquement, c'est catastrophique. Je vois moins l'importance des transitions sur le swimrun, mais je me dis, bon, sur les championnats du monde, tu fais 22 fois la double transition d'entrée dans l'eau. Ça doit quand même être hyper important. Qu'est-ce qui est clé ? Qu'est-ce qu'il faut bien réussir sur tes transitions ? Est-ce que c'est le changement de température, justement, parce que tu passes d'une eau où il fait quoi ? Il fait 12-13 degrés de l'eau et tu sors de l'eau et puis il y a pas mal de vent. C'est quoi l'enjeu ?
Oh là, l'enjeu, c'est le temps, hein, c'est sûr. C'est le temps, et tout comme tu peux vraiment gagner, tu fais un gros gap en triathlon sur ce tout petit moment. Nous, comme tu l'as dit, c'est plein de fois. Et en plus de ça, et je ne minimise pas la chose, hein, mais un triathlète, il vient, il enlève ses affaires natation, il les jette et il monte sur son vélo. Il descend son vélo, il jette son vélo ou presque, il met ses chaussures, il s'en va. Nous, à chaque fois, il n'y a pas qu'un truc à faire. Il faut remettre tes lunettes, il faut refermer la combi, il faut attacher l'autre, il faut mettre le plaquette sur les mains, il faut remettre le pull boy. Tu as énormément de choses à faire par rapport à ça. Il faut regarder où tu vas, parce que le triathlon, mine de rien, tu es très cadré, tu as des bouées de partout, tu as un ouvreur avec un canoë devant. Là, c'est une race aventure, hein, presque. Hein. Donc, avant de plonger, il faut que tu saches à quel endroit tu dois sortir. Parce qu'une fois que tu es dans l'eau, c'est pas dans l'eau que tu vas chercher la bouée. Hein. Et donc, tu vas aller chercher quand même, mais tu la vois moins. Donc, il y a tout ça à gérer. Et c'est un vrai challenge. Et donc, du coup, nous, pour pouvoir faire la différence là-dessus, c'est qu'il n'y ait aucun moment d'arrêt. Et que tout soit fluide. Et donc, pour que tout soit fluide, c'est des routines avec la montre pour calculer grosso modo dans combien de temps tu seras à l'eau. Parce que tu connais pas les parcours, et quand tu es dans la forêt, tu te rends pas compte des fois que l'eau elle est juste là. Donc tu peux le faire que la distance, et tu connais tes distances de course. Donc tu te prépares à l'avance et après tu te fais des routines. Tu sais que à 200 mètres avant, il faut commencer à remettre la combi si tu as fait tomber la combi. Il faut commencer à remettre le bonnet, les lunettes, le plaquette et le pull-boy, rattacher la corde. Tu as tous ces sujets-là à faire petit à petit. Donc tu les cadres et tu crées ta routine.
Avec un ordre spécifique, j'imagine, pour...
Le plus simple, c'est d'avoir un ordre spécifique. Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de... Tu n'oublies pas, généralement, globalement. Ouais.
Oui, puis si tu mets les plaquettes en premier, je pense que ce n'est pas évident de mettre ton bonnet après.
Tu as aussi cette partie-là. Tu as déjà mis les plaquettes, mais il faut que tu remettes la combi. Ça devient compliqué, mettre le bonnet encore plus. Tu as ça. Après, tu as aussi une complicité avec ton binôme, hein, juste pour faire des checks. Nous, je sais qu'on énumère chacun des ustensiles les uns derrière les autres. Et on se dit ok, et après on passe à l'autre. Et ce qui fait qu'en fait, une fois que tu arrives devant l'eau, bah tu as les 5 derniers mètres, tu regardes où est la bouée, et une fois que tu es devant l'eau, tu sautes quoi. Et ça, mine de rien, ça permet de faire quelque chose de fluide non-stop qui peut créer la différence.
Ouais, ok, d'accord, ouais, je vois très très bien. Donc, vous avez énormément de routines, de travail justement pour automatiser ça. Tu m'as fait une transition toute faite en parlant de Max, ton coéquipier. Lui, alors du coup, lui est suédois. Moi, je serais curieux de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Vous êtes trouvés parfaitement parce que c'est un sport d'équipe. Du coup, vous êtes champion du monde tous les deux. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite histoire humaine de rencontre qui aboutit à un franc succès ? Parce que j'imagine qu'en plus, si tu étais avec ton frère avant, alors il me semble que tu as eu un partenaire entre les deux.
J'ai un partenaire entre les deux, ouais, tout à fait.
Mais si tu peux raconter un petit peu justement l'histoire de comment tu oses quitter ton frère jusqu'à la rencontre avec Max et cette suite de succès qui s'en est suivie avec une saison parfaite où vous avez tout gagné et on vous annonçait gagnant et champion du monde bien avant de l'avoir fait. Comment est-ce que tu fais tes choix de partenaire et puis comment les histoires elles se sont faites quoi ?
Comment elles se sont faites ? Alors du coup, mon frère, j'ai raconté comment ça s'est fait. Derrière, en fait, cette première année où on s'y est mis avec mon frère, donc on fait cette deuxième étape dans la foulée, et là en fait à cette deuxième étape il y a un binôme mixte qui s'embrouille, Et en fait, dans un binôme mixte, globalement, c'est pas tout le temps le cas, mais globalement, l'important, c'est la femme. Parce que c'est statistiquement l'élément qui va être le moins performant quand tu veux crier au plus haut niveau, je veux dire. Et du coup, de là, on me propose en fait de remplacer ce monsieur dans ce binôme semi-pro. Et donc, je me retrouve à faire les championnats du monde dès ma première année de swimrun, 4 mois après. Et donc là, forcément...
Avec une femme que tu connais pas trop...
Que je connais pas trop, donc j'ai couru une fois avec elle, parce que du coup, je l'avais fait venir à Marseille, parce qu'elle avait fait aussi un test, elle aussi, parce qu'elle avait des enjeux, donc elle était venue à Marseille sur un swimrun à Marseille, on avait fait un swimrun ensemble, c'était bien passé, et c'était fluide.
C'est elle qui vient te chercher ?
C'est elle qui vient me chercher. Alors, c'est elle qui vient me chercher... En fait, les gens qu'on a rencontrés à Jvar, qui m'avaient embrigadé dans cette poursuite, savaient qui j'étais. Savaient qui j'étais en termes de nageur. Ils en ont parlé, ils l'ont proposé, et elle a dit ouais, pourquoi pas, why not? On a fait un test là-dessus, et puis après, on fait les mondes dans la foulée. Et à ces mondes-là, je me retrouve à me sortir la rotule dans la course, au tout début de la course. C'était génial. Kilomètre 3, t'as un team pro qui t'a tout payé, le billet d'avion, et tu fais la rotule qui sort au kilomètre 3. Je peux te dire que là, j'ai dit, bon, bah maintenant, mon gars, tu vas serrer les dents parce qu'ils ont mis un billet sur toi. Donc, j'ai fait toute la course avec la rotule dehors. Je me suis défoncé la rotule. C'est un moment où j'arrivais sur Montpellier et je me renseigne auprès de potes triathlètes qui sont sur Montpellier, ils sont quelques-uns là-bas, et qui me disent, bah tiens, il y a un kiné, il s'appelle Mathieu, va le voir. Et en fait, je rencontre ce fameux Mathieu qui, du coup, me remet d'aplomb pour repartir en course. Donc ça, c'était en août. En janvier, je me fais la clave. Donc, je revois Mathieu à nouveau. Et à ce moment-là, je m'étais déjà mis dans une dynamique que je voulais faire plus de courses, un peu plus performant. Et là, Mathieu se prend à fond dans le projet. Et en 3 semaines, je suis à nouveau dans l'eau à faire de la mobilité. Un bout de 5, je nage avec une clavicule qui était en 4 morceaux. Donc, j'ai encore une plaque et j'ai tout ce qu'il faut. Donc, il m'a pas lâché du truc. Et pour se motiver et se mettre vraiment dedans, et lui il est très athlète, et il s'est dit, bah tiens, il faudrait qu'on en fasse une ensemble. Et donc, du coup, on est un an après, je refais la Croatie avec Mathieu.
Donc, il s'est mis l'objectif de le faire avec toi pour objectif commun, quoi. En plus,
c'est un objectif commun, et du coup, ça a remotivé tout le monde, et ça a poussé tout le monde à suivre aussi bien la réparation de la clave que de moi garder aussi deux blessures d'affilée pour se motiver, se remettre dans le sport et se mettre un coup de pied au cul. Et donc, là, on fait ça, et là, on fait avec Mathieu, on fait, je sais plus, je crois 5e ou 6e. Lui, c'était sa première course de swimrun, ou presque. En tout cas, première sur la belle Otilo. Et là, on chope la qualif au monde ce jour-là. Et donc là, c'était prévu que de toute façon, la course à la qualif était avec mon frère. Donc, j'ai fait les mondes avec mon frère. Mais du coup, ça nous a aussi donné envie avec Mathieu d'aller faire plus loin, en se disant, bon, première fois qu'on fait ça, on fait 6. En plus, en faisant plein d'erreurs, Mathieu, il fait une hypo. Il y a un moment, on se perd sur une partie du parcours. Donc, il y avait moyen. Et en plus, au début, on lidait la course. Donc, on se dit, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a basculé là-dessus avec Mathieu. Et puis après, avec Mathieu, d'ailleurs, ça a été un cycle. Et fin de cycle, lui, sur les championnats du monde de 2021, il se blesse à la cheville. Il se fracture une partie du pied.
À chaque fois, c'est en course que vous vous cassez la gueule. Mais c'est dingue le nombre de blessures, d'accidents qu'il y a, quoi. C'est hyper dangereux.
C'est d'un moment où tu prends des risques, hein, donc
c'est l'eau et tu cours.
Ouais, c'est ça. Là, on était en train de se bagarrer pour la deuxième place. On prend des risques, mais en plus, c'est même pas un moment où il fait ça. C'est pas un moment de risque, c'est un moment de d'égarement et un mauvais mouvement au mauvais endroit. Et donc, il se fracture le pied. Et puis, on finit par faire pareil. Il fait ça au kilomètre, je crois, 40. Il en restait 30. Et on finit la course. Et on finit 3. Et lui, il était bousillé. Et donc là, après, par la suite, il me fallait moi, je voulais continuer à courir, il me fallait un nouveau partenaire. Et en fait, 2 mois plus tôt, on se retrouve à une course en Suède où je suis avec Mathieu, Max, mon nouveau partenaire, du coup, est avec un ancien champion du monde avec qui je m'entendais bien. Et on fait toute la course un peu à se tourner autour. Et à un moment, il y a 6 km de course à pied et on les fait en fait tous les 4. Et à chaque fois, Max devant, moi devant, et derrière, les deux partenaires rattachés quand on pouvait plus parce qu'ils étaient dans un mauvais jour, les pauvres, tous les deux, avec la corde. Et nous, on était en train de tirer comme des bœufs et en plus en train de discuter à ce moment-là. Et du coup, l'ancien champion du monde qui dit à Mathieu, mon ancien partenaire, ça serait quand même plus simple qu'on soit ensemble et que les deux chiens fous là devant ils fassent leur vie parce qu'on passerait moins une journée dure.
Pendant la course, il dit ça.
Parce que c'est pour montrer aussi le côté un peu friendly de ce sport. Et au championnat du monde, quand à la ligne d'arrivée, je discute avec cet ancien champion du monde qui là venait de finir 2 du coup et a vu en fait Mathieu se fracasser la cheville sur la course parce qu'on était à la bagarre à ce moment-là. On en parle un peu, on débrief, puis on en discute. Et je dis, bah ouais, bah là, bon, du coup, il va falloir que je trouve quelqu'un pour finir la saison. Et il me dit, bah, c'est peut-être le moment de tenter ta chance avec Max.
Okay.
Et c'est là où c'est comme ça qu'on a pris le premier des Spars ensemble avec Max.
Ok, d'accord. Ouais, ouais, et du coup, ce champion du monde qui est OK pour filer son Max, son partenaire.
Bah alors, c'était pas son. C'était, alors, pour le coup, ils ont fait cette course ensemble, mais c'était.
C'est pas officiel.
C'était pas officiel. C'est vrai que okay. Ça se voit de plus en plus, en fait, au final, dans. T'as ton partenaire officiel à qui tu vas faire le championnat du monde, et puis après le reste de la saison, si pour raison X ou Y, y en a un qui est pas dispo, que tu veux courir avec un autre, tu peux courir avec un autre. Et ce qui est pas mal, c'est un bel apprentissage au fait au final, parce que tu vois d'autres habitudes, tu vois d'autres façons de faire, et ça permet au final de te peaufiner aussi un peu toi.
Bien sûr, ouais. Bah, là encore, une transition trouvée, tu vois, parce qu'on a compris un petit peu à travers ton discours à quel point le choix du partenaire est important, parce que vous devez être fluide, coordonné, vous entendre, vous répartir les rôles aussi, qui est-ce qui est devant, qui est-ce qui repère le balisage. J'imagine aussi que vous devez apprendre vraiment à vous sentir et vous connaître, s'il y en a un qui est dans le mal et qui ne veut pas le dire, ou ce genre de choses. Vous êtes 3000 km des au moins 4-5 000 km d'écart, parce que lui du coup il est à Göteborg. Comment est-ce que vous faites justement pour à distance créer cette connexion, créer cette recette magique qui va vous faire gagner par la suite?
Bah déjà on s'est quand même régulièrement téléphone hein, pour débriefer et suivre un peu l'évolution, tout va bien, partager un peu nos projets et le mood du moment et ce qui se passe à l'entraînement. Après on est aussi raccord sur le pace qu'on cherche à avoir pour la partie course à pied. Donc l'allure. Donc ça, forcément, tu supprimes au moins cette variable-là qui est l'écart de niveau. Enfin, tu peux l'avoir quand même, mais au moins, on est raccord sur ce pace cible pour les Coupes du Monde. Et après, on fait des stages aussi à l'année où on passe des temps, on fait beaucoup d'heures d'entraînement. C'est des stages un peu plus intensifs et on fait pas mal d'entraînement ensemble. Et c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'expérience aussi. Et aussi, c'est à un moment donné d'être humble et de pas avoir peur de dire quoi que ce soit, pour se connaître. Si jamais il y a besoin de ralentir ou d'accélérer, ou il y a une volonté, bah c'est le prendre de le partager et de recevoir aussi sans a priori, sans jugement, et de s'adapter, toujours être prêt à s'adapter, d'être bienveillant. Ça, c'est un truc qui, je pense, nous aide beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est tous les deux plutôt d'un mood verre à moitié plein que verre à moitié vide. Donc ça emmène une certaine énergie aussi par rapport à ça. C'est aussi développer un langage corporel. C'est-à-dire que ce que tu disais, par exemple, des fois, où tu ne te rends pas compte que l'autre ne va pas bien, mais il y a quand même plein de signes qui peuvent te faire comprendre que l'autre ne va pas bien. Donc, tu sais, à force de passer du temps ensemble et à force de courir, tu sais que quand il y a un souffle comme ça, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que quand il arrête de parler, tu sais ce que ça veut dire. Ou, enfin, tout un tas de choses. Donc, ça, c'est aussi cette partie-là. Et c'est aussi, tout comme la transition, c'est de se forcer d'avoir des routines et de faire des check-ups réguliers.
Ouais, ok. Bah, hyper intéressant, ouais. On voit à quel point c'est de la préparation et que c'est pas du tout du hasard. Pour avoir regardé un petit peu vos vidéos, et je confirme, tu vois, en te voyant en vrai, je me suis dit, waouh, Hugo, il a un mental de champion. T'es hyper optimiste, bien organisé, carré, tu sais ce que tu veux et tout. Est-ce que t'as des petites routines de prépa mentale pour développer un peu cet état d'esprit, tu vois, ou de rester optimiste, toujours positif? Est-ce que, je sais pas, tu médites, tu vois un coach, quelles sont tes petites routines de champion, justement, pour soigner, on va dire, ce qui se passe dans la tête? Enfin, soigner, améliorer.
Soigner et faire du sport, déjà. Ça c'est un sujet. Hein. C'est un sujet, là, je t'avoue que là, depuis le début d'année, ça a été un peu chargé professionnellement. Et donc, j'ai fait aussi ma coupure de saison. Donc, j'ai pas forcément consacré suffisamment de temps au sport. Et j'en suis vite rendu compte. Hein, dès que je fais pas ça, après, je tombe dans une sphère négative. Et ça tout n'est pas aussi bien aligné, dans l'esprit en tout cas. Donc ça, c'est un des sujets. Et après, j'ai pas trop de gourous, j'ai pas trop de gens à qui je parle en particulier de ça ou qui m'accompagnent là-dessus. Plus dernièrement, je me suis intéressé et j'ai eu 2-3 lectures de développement personnel qui m'ont apporté d'autres choses, mais je pense que c'était plus pour ma nouvelle vie professionnelle où ça m'intéressait d'avoir ce regard-là.
Tu peux les citer, les lectures, ou...
Oui, c'est beaucoup du Charles Pépin. Les vertus de l'échec.
Je pense que c'est un des bouquins qui est revenu le plus souvent sur le podcast, quoi.
Il y a celui-là, et puis il y en a d'autres. Il y en a qui sont... C'est Transmettre, c'est... J'ai mangé son nom, mais c'est un qui est sur la parole et qui te fait beaucoup penser aussi à c'est la justesse de la parole et de tout ce qu'on peut transmettre à travers la parole. Et c'est rigolo, mais c'est bien collé à un film qui s'appelle Le Brio, et l'autre c'est Banlieusard, qui tournent autour de des écoles de politique de Sciences Po parisiennes, où il y a tous ces jeux d'éloquence. Ça, c'est toujours un truc, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais c'est parce que moi, j'ai pas ce vocabulaire soutenu et j'ai pas cette fluidité ou cette qualité d'expression qu'ils peuvent avoir et de tournure de phrase. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'impressionne et m'inspire. Et c'était aussi un truc qui m'a intéressé et que j'ai bien retrouvé dans certains des bouquins, des lectures que j'ai pu faire.
Ok. Et tu as des lignes de conduite, tu vois, sur la nutrition, la respiration, la récup. Comme vous avez quand même un gros volume d'entraînement, je sais pas, est-ce que tu fais. Est-ce que tu as des petites recettes ou des petites choses qu'en ce moment tu utilises justement pour améliorer et pousser les curseurs de la performance encore plus loin ?
Le truc le plus gros et le plus évident, c'est j'ai changé de régime alimentaire.
Ok.
Comme beaucoup de monde, j'ai vu ce fameux documentaire sur Netflix qui s'appelle Game Changers. Ouais.
Là aussi, je pense que c'est
presque un peu provoque. Je me dis, ouais, c'est too much, ces trucs à l'américaine et tout. Et je me retrouve à faire un pari un nouvel an en me disant, allez, on fait tout le mois de janvier, on fait vegan. On fait vegan, puis on verra. Pour le coup, enfin moi, ça a été game changer. En 4 jours, j'ai changé tout un tas de sujets, des problèmes gastriques. Et surtout, le truc qui était dingue, c'est que je pouvais m'entraîner plus, dormir moins, être moins fatigué dans mon quotidien, faire plus d'activités sportives, mais aussi intellectuelles. Et j'avais plus d'énergie à la fin de l'histoire. Et j'étais là, mais c'est quoi cette équation parfaite, quoi ? Ça, du coup, c'était le mois de janvier 2020. Derrière, j'étais dit bon, c'était quand même très contraignant parce que c'était le début, puis j'avais pas trop d'informations, donc je dis bon, je vais essayer d'adapter un peu.
Quand tu te lances comme ça dans le bain du véganisme d'un seul coup, c'est pas facile.
Ah ouais. En plus, c'était bête et méchant, sec. Et puis alors pour le coup, un peu militaire quoi. Si on a dit ça, on fait ça et on y va, tu vois. Donc pas d'entorse sur tout ce mois-là. Et donc derrière, je redivague un peu en février. Et puis après, le 22 mars, je crois que c'est le 22, comme tout le monde, j'ai été enfermé chez moi. Donc Covid qui tombe. Et là, du coup, pendant 2 mois, t'es enfermé chez toi. Moi, j'avais pas de boulot. Comme j'étais commercial à ce moment-là, commercial, tu vas plus sur le terrain pendant le Covid. Donc enfermé chez moi. Et là, ça m'a permis du coup de beaucoup plus me renseigner et de lire et de faire beaucoup plus de recettes. Et là, j'ai à nouveau fait vegan pendant 2 mois. Et là, du coup, en fait, derrière, ça a complètement changé mes routines. Et je le fais. Enfin, c'est bon. Je suis pas vegan parce que je fais ça pour le sport et pas pour les animaux, même si c'est un bonus pour les animaux, mais c'est pas ma priorité première. Donc si jamais j'ai une ceinture en cuir, j'ai une ceinture en cuir. Et je suis pas un vegan ultra strict, c'est-à-dire que si je suis chez mamie et que mamie elle a fait un agneau 7 heures, je vais pas dire bah non mamie, j'en veux pas ton agneau. Je vais être gentil, je suis pas allergique, mais globalement au quotidien je fais ça.
Ouais, dans ton frigo on trouvera pas de produits animaux parce que c'est toi et ok. T'as peut-être une reco de lecture ou de une source d'inspiration, je sais pas, une chaîne YouTube, un blog qui t'a vraiment aidé, parce que je sais qu'il y a un super athlète qui faisait un café genre The Vegan Runner en anglais, un super blog qui était vraiment super bien pour le coup pour les recettes et tout, moi qui m'avait beaucoup aidé justement pour cette période là et j'avais trouvé que c'était à la fois cool parce que le mec avait vraiment poussé ses recherches de nutrition très loin et en même temps il était coureur tu vois, donc il y avait vraiment le côté sportif tu vois, et c'était pas, j'aimais bien le double côté, mais toi ouais, il y a eu je sais pas des sources d'inspiration qui t'ont marqué un petit peu plus que les autres et que tu pourrais recommander, ou t'as vraiment pioché un peu partout?
J'ai pioché un peu partout pour aller choper des infos à droite à gauche. Le truc qui me facilite au quotidien la vie, c'est Instagram. Parce que t'as tout un tas de comptes qui existent et t'as des recettes qui vont derrière, donc ça donne des idées. En plus, c'est visuel, donc ça passe bien. Et ils le font même maintenant en vidéo la plupart, donc c'est très très cool, c'est encore mieux. Mais j'ai acheté 2-3 bouquins aussi pour avoir des idées. En fait, pour le coup, je prends quasiment rien de substitution, c'est-à-dire que tous les trucs que tu peux trouver dans le commerce, les steaks de soja, toutes les prots de soja, tous ces sujets-là, c'était pas mon truc parce que je suis pas très médicament, je suis pas tous ces trucs de synthèse ou un peu bizarre. Et dans l'idée, c'était, enfin, si j'ai nexté ça, c'est pas pour manger du fromage à la place du fromage, tu vois, c'est, enfin, non, clairement pas. J'ai plutôt cherché à diversifier, à avoir d'autres idées et qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Après, depuis tout je mange toujours beaucoup de légumes, donc ça n'a pas été un gros sujet. Je cherchais un peu à droite à gauche, j'ai pas eu un truc qui m'a dit ouais, c'est ce qu'il faut que je suive.
Bah écoute, je suis trop content parce que c'est une des premières fois que je tombe sur un athlète vegan, tu vois, ou en tout cas qui s'en rapproche le plus, tu vois, et ça me fait plaisir de pouvoir parler de ça. Bon, je vois qu'il est 23, j'ai promis que je te libérais pour 27, donc il nous reste 4 minutes. Sur les 4 minutes, je voulais te poser les petites questions un petit peu de la fin, donc on a parlé un petit peu de documentaire, un peu de bouquin. Si j'appelle ton meilleur pote et que je lui demande ta meilleure qualité en amitié, qu'est-ce qu'il me dirait ?
Fidélité, et puis ouais. Toujours, ouais. Je lâcherai rien.
Ton plus gros défaut en amitié ?
Je lâcherai rien. Non, c'est-à-dire que non, c'est... je sais pas si c'est le plus gros défaut. Non, le plus gros défaut, c'est presque l'opposé de ce que je viens de dire avant, c'est que en fait, t'as besoin de moi, je serai là, il y a pas de souci. Mais comme moi, de base, je suis assez solitaire. J'appelle pas mes parents tous les soirs, si tu veux, pour prendre des nouvelles. Et donc, des fois, on me rappelle un peu à l'ordre en disant coucou, j'existe. Tu vois. Et c'est pas mal intentionné, mais c'est, je suis comme ça, quoi.
Faut qu'on t'appelle et tu réponds présent. Quelle est la dernière musique qu'on trouve dans ta playlist?
La dernière ajoutée là?
Ou la plus écoutée?
La plus écoutée. Et la dernière écoutée s'appelle Nouméa. Tiens, je vais faire un peu de pub. Ça s'appelle Nouméa. C'était hier, cette semaine, j'étais à Marcoussis au CNR. On était en séminaire là-bas avec le partenariat. On a la chance de pouvoir rester au CNR à Marcoussis, centre national d'entraînement du rugby. Et je suis parti courir un matin. Et je sais pas, c'était un matin un peu plus dur de se réveiller. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui pourrait donner le smile là maintenant? Et puis je me suis dit, allez, je vais mettre des chansons de Nouméa. Et la dernière ajoutée, ça s'appelle Nouméa.
Ok. Bah, du coup, j'arrive avec la toute dernière question. C'est un passage de micro avec un prochain athlète. Qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de performance, de tileux, de véganisme et tout? Est-ce que tu as quelques noms à me recommander? Je crois que tu as mentionné Arthur tout à l'heure et ça pourrait être très cool.
Ouais, alors parler au tileux, Arthur ne te parlera pas au tileux. Mais après, par contre, un mec inspirant, incroyable, ouais, lui. Lui, parce que lui pareil, c'est un mordu, c'est un frappadingue. C'est le mec qui part tous les dimanches tout seul faire 7 heures de vélo quand même. Il pleut, il mentinette, il rège, il va faire 7 heures de vélo. Et il met Johnny comme un déglingo dans son oreille parce que c'est un grand fan de Johnny.
On va s'entendre.
Et il fait ça tous les dimanches. Et moi, je suis là, moi, je déteste le vélo et je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais bref, au-delà de ça, c'est un mec très, très inspirant et très droit et très, très, très sympa. Arthur Sarrière.
Ok, il est sur Paris?
Pas du tout, Montpellier.
Oh, moi, c'est pas grave, j'arrive à voir. Et peut-être une athlète pour avoir un petit peu de parité femme-homme? Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire dans ses performances ou que t'aimerais bien écouter sur Extraterrien?
On reste français?
Ouais, ou francophone, ça peut être cool.
Francophone, ouais. C'est toujours le sujet de choisir. Allez, je vais prendre un truc un peu chauvin. Yola Nyengo, une fille avec qui j'étais en cours quand j'étais à Nouméa et qui fait partie de l'équipe de France de rugby.
Ok. Trop bien. Bah écoute, je la connais pas du tout, donc je vais découvrir. Et en plus, rugby féminin, un sujet qui m'attire de plus en plus. Et on a une équipe qui cartonne, donc ça fait plaisir. Écoute, merci infiniment, Hugo. Je suis vraiment trop content de cet échange. J'aurais pu le faire durer peut-être deux fois plus de temps si on avait eu le temps, mais on a été bavard avant de commencer l'interview. C'est de ma faute. Je suis ravi d'avoir pu parler justement de swimrun, de découvrir un petit peu le tilo et de découvrir toi aussi, parce que je prends plaisir à te suivre et tout sur les réseaux. C'est que le début, j'ai l'impression que tu vas faire encore une grosse carrière et qu'on va te voir longtemps sur plein de défis complètement fous. Donc merci infiniment pour ce moment.
Merci beaucoup pour cette opportunité, vachement cool. Hâte d'écouter ça et de voir la suite aussi, vu qu'on se recroise.
Bah ouais, carrément. Et puis j'espère te compter parmi les auditeurs d'Extraterrien encore longtemps. Voilà.
Promis, je serai là.
Salut, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.